Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Eh bien, chers auditeurs, bonjour. Comme d'habitude, nous allons parler antiquité, mais nous allons parler aussi BD antiquisante, avec mon invité du jour, que je salue tout de suite, c'est Jérémy, car c'est ainsi qu'on l'appelle. Bonjour Jérémy.
Bonjour Martine.
Alors Jérémy, alias, je vais peut-être mal prononcer, il faudra me reprendre, Jérémy Pétiqueux, mais le nom d'artiste, le nom de dessinateur, c'est Jérémy, qui figure sur la couverture du Murena, tome ou plutôt chapitre 13, que j'ai là sous les yeux. Est-ce que j'ai bien prononcé le nom ?
Oui, tout à fait, oui. Même si ce n'est pas un nom qui est très accrocheur, c'est pour ça qu'on ne l'a pas laissé sur les couvertures.
D'accord.
En général, ça faisait souvent rire les journalistes quand on en parlait, donc j'ai préféré le retirer des couvertures. Et comme ça, c'est juste Jérémy.
Oui, ça, en plus, c'est facile à retenir et ça sonne effectivement très bien. Donc, on va parler donc, de l'histoire de Jérémy et de son histoire avec Jean Dufaux, qui a commencé par une autre histoire, qui devient une histoire avec Murena. Une histoire, donc, comme on a dit, antiquisante. Alors, Jérémy, vous êtes connu dans le monde de la BD. Je ne vais pas égrener tout ce que vous avez fait, mais je vais déjà rappeler que vous avez été le coloriste déjà de 4 albums et un disciple de Philippe Delabie, qui est la rencontre, je pense, qui a marqué votre vie. Alors, je pense que les auditeurs savent que Philippe est ce dessinateur génial, trop tôt disparu. Ça a été un choc épouvantable pour tout le monde. Et c'est ensuite Théo qui a repris le crayon. Et maintenant, c'est vous. Donc, cette rencontre avec Philippe Delabie, je pense, on vous l'a demandé très souvent, je m'en excuse, a été déterminante.
Ouais, bah c'est ce qui a tout changé dans ma vie, c'est sûr. Déjà, ça a été mon école parce que je l'ai rencontré quand j'étais adolescent et j'étais en pleine étude secondaire. Je ne sais pas à quoi c'est équivalent en France, mais ouais, j'avais 15-16 ans. Donc, c'était une période où sa femme, à l'époque, travaillait avec ma maman.
Oui, je la connais.
Qui sont donc
oui.
Institutrices... Ouais, Valérie.
Oui, Valérie.
Qui sont donc institutrices en primaire. Et donc Philippe est venu une fois manger à la maison et c'est ainsi que je lui ai montré mes dessins. C'est ainsi que qu'on s'est connus, quoi, qu'on s'est rencontrés.
Alors si Valérie écoute l'émission, je la salue. Ça fait un bon moment que je ne l'ai pas vue. J'espère que tout va bien pour elle. Et donc cette bonne école avec Philippe Delabie vous a montré, je crois, et on le voit aujourd'hui ô combien... combien chaque détail est important, chaque case, tout avait son importance pour Philippe, qui parfois désespérait Jean Dufaux, le scénariste de Murena, parce que il passait parfois un temps énorme sur un tout petit détail qui, à nous, nous aurait semblé insignifiant.
Oui, c'en est au point que c'est son dessin qui m'a fait aimer le dessin réaliste. Puisque quand je l'ai rencontré, moi j'étais très manga, vu que c'était l'époque, c'était l'âge. C'était ce qu'on voyait partout dans la cour d'école. Et puis, c'est quand il est venu à la maison et que j'ai lu les Murena, où j'ai eu un choc graphique par rapport au dessin réaliste et aussi à la couleur. Puisqu'après, il m'a proposé d'aller dans son atelier. Et là, quand j'ai vu les planches en couleur, avec son dessin réaliste qui est très détaillé, ça a été un choc graphique, un choc émotionnel pour moi, au point que j'ai voulu moi-même partir dans cette voie dans les années qui ont suivi, quoi.
Oui, et d'ailleurs, quand je dis que ça se voit dans cet album dont nous allons parler bientôt. Et puis, ça se voit parce que très souvent, vous demandez à droite, à gauche, auprès de spécialistes, un petit conseil pour quelque chose qui nous semblerait infime, mais qui pour vous, comme pour Philippe Delabie, est capital. Donc, vous documentez énormément.
La recherche, c'est ça. Se documenter continuellement, mais c'est déjà ce qu'on faisait à l'époque avec Philippe, parce que quand il m'a invité à devenir son assistant, je faisais pas que les couleurs, je l'aidais aussi dans le travail de recherche, dans la préparation des planches. Donc j'ai acquis un peu avec lui cette mécanique de recherche constante dans la documentation. Et C'est quelque chose qui me passionne. Ça me passionne de toujours apprendre des choses qui ne sont pas forcément des choses littéraires, mais plutôt sur la vie journalière des Romains à l'époque. Au point que ces dernières années, je suis parti plusieurs fois à Rome, en Italie globalement, mais à Rome, à Pompéi. Enfin, j'ai fait pas mal de recherches et le fait d'aller sur place moi-même m'a aidé grandement dans la représentation que j'ai de Rome aujourd'hui.
Oui, comme je le dis, ça se voit. Une petite anecdote pour Philippe, qui était parfois capable de rester bloqué des semaines et des semaines à la recherche de la bonne attache pour une chaussure. Hein. C'était vraiment quelque chose qui était de l'ordre de l'obsession. Et donc, vous marchez dans ses pas, vous avez été son assistant. Et puis, voilà qu'il disparaît. Vous menez votre carrière très variée et très abondante parallèle. Et puis, vient le moment où donc Jean Dufaux vous demande de reprendre le flambeau.
En fait, c'est pas la première fois. Il m'avait déjà demandé de le faire au décès de Philippe. Mais il faut savoir qu'à l'époque, quand Philippe est décédé, Philippe était quelqu'un qui me poussait justement à trouver ma propre voie. Et je m'étais dit, vu que aller reprendre sa série pendant autant d'années, ça aurait été encore marcher dans ses pas. Et c'était un peu contraire à ce vers quoi il voulait aller. Il voulait m'inculquer, m'apprendre. Enfin, c'était ce que je croyais à l'époque. Seulement, voilà, après, j'ai fait mes expériences. J'ai fait des expériences en solo avec d'autres scénaristes. J'ai fait pas mal de projets dans les années qui ont suivi. Et est venu le moment où, effectivement, Jean Dufaux m'a reproposé de reprendre la série parce que, niveau planning, ça n'allait pas avec Théo. Comme Théo mettait beaucoup de temps pour faire un album, ça ne convenait plus à l'éditeur. Ils ont voulu commencer à chercher deux dessinateurs et Jean s'est tourné vers moi en premier pour être sûr que ça ne m'intéressait toujours pas de le faire ou pas. Et en fait, Jean et moi, on allait retravailler ensemble. On voulait refaire une suite à notre série Barracuda, qui était
Oui.
la série de pirates, ma première BD. On allait retravailler ensemble. Donc Jean m'a dit, voilà, tu as le choix, soit on reprend Barracuda, soit tu reprends Murnau. Et je me suis dit, cette fois-ci, je vais quand même y réfléchir. Je vais pas dire non comme ça, comme la première fois on me l'a proposé. J'ai réfléchi, et j'ai pesé le pour et le contre, et je me suis dit, mais ok, cette fois-ci, je sens que je peux m'approprier cette histoire. Le temps est passé, la douleur est passée. J'ai une profonde affection pour cette série. C'est ma série BD préférée, je l'ai toujours dit, de manière globale, hein, au-delà du fait que j'admire Jean et Philippe. C'est vraiment ma série BD préférée, tout genre confondu. Et je me suis dit, non, mais en fait, j'aime trop, donc moi-même, ça m'embêterait qu'il n'y ait pas une belle fin à cette série, ou j'aimerais que cette série ait une fin à la hauteur. Enfin, c'est assez prétentieux de dire ça comme ça, mais je me suis dit, j'ai envie de le faire et de le faire à fond, quoi, de donner le meilleur de ce que je peux faire pour essayer d'arriver à cette fin que Philippe Delaby connaissait, puisque Jean lui avait raconté quelque
Oui.
temps avant son décès.
Et effectivement, Jean, pour parler de lui, n'a pas du tout été déçu, tout au contraire, puisqu'il a dit qu'il avait retrouvé avec vous un dessin réaliste teinté de flamboyance et de fantastique. Et je trouve que oui, c'est bien résumé ce que l'on voit dans cet album, qui est le premier album d'une série, d'un dernier cycle. On en parlera tout à l'heure. Donc, vous êtes un travailleur acharné et je sais, je ne dévoile pas de secret, que vous êtes en train de terminer déjà, c'est peut-être déjà fait même au moment où nous nous parlons, le volume suivant et que vous êtes à fond dans le dessin et la préparation de ces derniers albums.
C'est ça, oui.
Et alors, vous travaillez, par exemple, c'est une question sans doute trop très difficile, mais sur ce dernier, pas sur celui que vous venez de terminer, mais sur celui dont nous parlons aujourd'hui, qui est paru en octobre 2025, vous avez travaillé combien de temps, si on peut quantifier, hein, pour aboutir à ce beau
C'est
résultat?
toujours Ouais, c'est toujours un an de travail par album. Idéalement, c'est ce que j'essaye d'avoir voilà, pour vivre en tant que dessinateur de BD. C'est simple, si je veux en vivre, il faut que je fasse un album par an. Là, Murena, je mets un an et un mois, à savoir que c'est la plus petite pagination que j'ai faite jusqu'à présent, donc 46 planches.
Oui,
Avant, je
c'est
faisais
un
que des
format qu'on ne.
54, voire plus.
Oui, voilà, c'est un format inhabituel aujourd'hui, hein, et vous êtes
Ouais.
rentré dans ce format.
Ouais, et paradoxalement, c'est ce qui me donne c'est la BD qui m'a donné le plus de travail, tellement il y a du travail sur les planches, tout simplement. Mais comme j'ai, on va dire, 2 ans ou un an d'avance sur le travail, ben, je peux me permettre de faire un an et un mois sans que ça n'affecte les sorties annuelles, des années à venir, quoi. Et donc, ça, c'est un bon. C'est plus relaxant, enfin, pas relaxant, mais.
Oui, en tout cas, moins
C'est
stressant, moins angoissant.
moins stressant, voilà. Oui, tout à fait.
Et donc, vous êtes bien accordé avec Jean et avec son rythme, son sens du découpage, et que vous avez repris à votre compte.
Oui, mais j'avais déjà l'habitude de travailler avec lui, comme on avait déjà travaillé ensemble sur Barracuda. Et ouais, je pense que Jean et moi, on s'entend à merveille. Il y a une bonne osmose entre le dessin et son écriture. Et je suis assez content du résultat, mais j'ai toujours envie de donner le meilleur pour essayer de faire les plus belles planches possibles, parce que je suis motivé par cette histoire qu'il a écrite. Vu que j'ai aussi cet avantage d'avoir les prochains scénarios, ils sont déjà écrits.
Oui.
Pas tous, pas jusqu'à la fin, mais il y a déjà 4 tomes d'écrits ici. Et c'est très chouette d'avoir une vision d'ensemble. Alors on perd un peu cette énergie d'avoir une histoire qui me confie en séquence par une dizaine de planches. Donc il y avait avant un côté un peu série, comme on attend la suite d'un épisode. Maintenant j'ai plus une vision d'ensemble en ayant le scénario au complet, mais ça me déplaît pas. J'aime bien d'avoir cette vision globale. C'est aussi un avantage de pouvoir savoir où l'histoire va aller.
Où l'on va, oui,
Des
bien
fois, ça
sûr.
peut aider aussi. Ouais.
Oui, moi, la première fois que j'ai rencontré Jean, enfin, c'est la deuxième fois en fait, et qu'il a, dans une communication que je lui avais demandé à Nîmes ici, dévoilé le scénario, et on en était qu'au tome 9, hein, où il connaissait déjà, nous a-t-il raconté, toute l'histoire. Or, il s'avère, et nous en parlerons dans quelques minutes puisque nous allons marquer une pause, il s'avère qu'il a un petit peu changé cette fin et le nombre de chapitres qu'il avait accordé à ce dernier cycle. On va marquer une pause et puis après on reviendra parler de cette BD qui pour moi aussi est ma BD préférée, à savoir Murena et le tome 13 qui est paru tout récemment. Petite pause musicale avec un groupe qui n'est pas du tout antiquisant. Mes auditeurs vont peut-être avoir un choc. C'est de la musique rock progressive, un groupe allemand. Mais évidemment, j'ai été attirée parce que ce groupe s'appelle Neronia. On marque une pause musicale et
Allez.
on se retrouve après, Jérémy.
Everything has its time, and every time goes by. When the curtain is falling and the stage is clean, the time is right for the next scene. A short distance between you and me. Who makes the first step and tear down the wall? Let's have a contact from soul to soul. And the story goes on and on.
Mm-hmm.
forgotten things come true. Scenes from a memory of forgotten things come true. Scenes from a memory forgotten things come true.
C'est Antiquissimo sur Radio Alliance Plus. C'est la deuxième partie d'une émission consacrée à Murena, le tome 13 qui est paru tout récemment, et surtout à son dessinateur qui a repris le flambeau. C'est Jérémy, que nous avons ici, non pas au bout du pinceau, mais au bout du micro. Alors, cette fois-ci, on rentre dans le vif du sujet, dans cet album Néronia. Alors, Néronia, on entame le cycle. Alors, je disais tout à l'heure, en fin de première partie, que Jean avait d'abord une idée du dernier cycle qui s'appelait le cycle de la mort. Et puis finalement, ce cycle ne s'appelle plus le cycle de la mort, mais le cycle de l'amitié. N'est-ce pas?
Oui, effectivement. le cycle de l'amitié, mais c'est tellement en adéquation et en écho avec notre propre histoire, avec Jean-Philippe, oui, et moi. Il y a eu énormément de bonheur entre nous au moment où on travaillait ensemble sur Murena. Philippe et Jean faisaient souvent l'honneur de m'inviter un peu partout, enfin dans la mesure du possible, là où ils se déplaçaient. Et donc c'était très sympa de leur part de mettre ainsi mon travail de coloriste. Et au-delà de ça, il y avait aussi cette ambiance d'atelier avec Philippe, puisque je travaillais souvent dans son atelier avec lui. Et on s'amusait comme des gamins, finalement, sur le travail. Pour moi, ça a été aussi la preuve que on peut faire un travail sérieux et
s'amuser.
Et de s'amuser en même temps. C'est tout à fait possible et je continue à le faire aujourd'hui.
C'est formidable et ça se sent. Donc, dans ce cycle de l'amitié bien nommé à tous égards, eh bien, on va avoir combien de chapitres annoncés, dont celui-là sera le 13e tome, mais ce sera le premier chapitre de ce dernier cycle. Il en restera combien après? On va jusqu'au 17, je crois, c'est ça?
Il y aura 6 albums en tout.
Oui.
Donc, 6 albums pour le dernier cycle.
Et j'ai vu dans une interview que vous avez donnée récemment que vous connaissiez par Philippe la fin, parce que tout excité de ce que Jean lui avait révélé, il n'avait pas résisté au désir de vous la raconter. Donc déjà, à l'époque, vous saviez où on allait, même s'il y aura bien sûr des variantes. Alors là, l'album s'appelle Néronia. Et Néronia, ça désigne des jeux que l'âme noire de Néron, à savoir Tigelin, l'affreux Tigelin, va lui suggérer pour redorer un peu son blason. Et puis aussi parce que Néron se croit, nous le savons tous, un grand artiste et il a envie qu'on l'honore comme tel, comme un grand poète. Et ces Néronia, ce sont des jeux qui ont vraiment existé.
Oui, c'est un peu ce qui a précédé les Jeux Olympiques, les Néronia. On ne montre pas tous les jeux, évidemment, dans cet album. On se concentre que sur la partie poésie de Néron. Ce qui était amusant, d'ailleurs, à montrer dans cet album, puisqu'on voit que les gens s'ennuient face aux proses de Néron. C'était assez amusant à dessiner, d'ailleurs.
Ben oui, parce que bon, là, il fallait pas faire de gaffe et il fallait être dans ceux qui applaudissaient, mais on n'en pensait pas moins. Hein. Il y a déjà dans certains films, très vieux films, Péplum, la représentation de ce Néron qui est caricaturé. Les week-ends de Néron, hein, c'est le film auquel je fais allusion, où on voit Néron chanter vraiment comme une casserole, quoi. Hein. Et donc, il faut faire comme si c'était génial. Pour ces jeux qui sont des quinquennalia, c'est-à-dire instaurés, alors on est en 60 de notre ère, instaurés tous les 5 ans, à l'imitation des jeux grecs, pour célébrer principalement Néron.
Oui, bien sûr, hein, tout est politique et... On avait, comme vous dites, on avait plutôt intérêt à les apprécier, qu'importe ce qu'on en pensait.
Oui, alors...
C'est peine de mort.
Et Jean dit, à propos de cet album qui ouvre ce dernier cycle, que j'aime beaucoup cette expression, le damier est ouvert. Hein, c'est-à-dire que tous les personnages, ou presque, sont encore là. Néron s'est débarrassé de pas mal de monde et des complots qui auraient pu empoisonner son règne. Et nos personnages sont là. Murena, personnage principal, ami de Néron, on le rappelle, et qui va devoir faire avec deux amours qu'il vit. Hein. Il va falloir, bien sûr, un de ces jours, faire un choix. Et son ami Pétrone, qui est toujours là. Donc, vous avez raconté cette histoire et vous l'avez dessinée, cette histoire. Et est-ce que vous avez l'impression d'avoir dessiné Néron autrement ?
Oui, mais ça faisait déjà partie de la vision que j'avais de lui, mais qui a été créée par, par Jean et Philippe, à savoir une vision différente de l'image perçue plus globalement du personnage. Cette légende le concernant, et Jean et Philippe en ont fait un personnage très nuancé, très humain, et c'est ce qui le rend hyper intéressant. Et je crois que c'est ce qui attire beaucoup les gens aussi, d'avoir cette relecture du personnage qui reste réaliste, si on peut dire comme ça. L'interprétation de Jean me paraît assez juste et plausible par rapport à ce qu'on peut lire de lui. Quand j'avais commencé, j'avais lu un peu, c'était dans la Vie des 12 Césars,
oui.
Tout le passage sur Néron qui était affreux. Mais après, on comprend que selon les personnes qu'ils ont écrit sur lui, évidemment, le point de vue pouvait être différent de la réalité. Et Jean a bien eu cette intelligence de prendre tous les points de vue existants sur le personnage pour créer le sien.
Et oui, parce que vous faisiez allusion à Suétone, hein, qui effectivement est un jugement de parti pris sur Néron, et les sources aussi, c'est tacite, mais effectivement, il y a d'autres sources et d'autres regards sur ce Néron qui est, on ne va pas dire un enfant de cœur, hein, vu ce qu'il a réellement fait, on le sait, mais qu'il y a là quelques explications sur cette psychologie moins simple qu'il n'y paraît.
Tout à fait, ouais. Ça a été le cas pour d'autres personnages aussi. Un exemple que je trouve assez éloquent, c'est le cas de Poppée, qui est un peu présenté comme une seconde Agrippine. Mais grâce je pense que c'est Claude Aziza qui a dit à Jean, attention, Poppée n'était peut-être pas tout à fait comme ça. Et on voit qu'en cours de route, de la première fois où on la voit jusqu'à dans le tome 13, il y a une progression lente du personnage vers quelqu'un de plus sympathique, plus humain, plus douce et plus aimante. Et c'est une vision que Jean n'avait pas du tout du personnage au début. Et grâce à Claude Aziza, justement, il a pu changer cette perception du personnage. Ce qui rend aussi, narrativement, ça lui donne un arc narratif qui est aussi fascinant à suivre. Hein, quand on voit une femme qui est, Jean l'a très bien dit dans la BD, mais elle a été attirée par le dieu. Mais elle est restée, elle a aimé l'homme en Néron. Et ça a été un beau changement, je trouve, dans l'histoire, qui est tout à fait, qui rejoint un peu une autre réalité.
Et c'est vrai
c'est toujours ce mélange de points de vue.
Cette humanité paraît très bien, effectivement, dans la manière de la dessiner, aussi dans l'entourage que Jean Dufaux lui prête, c'est-à-dire que elle fréquente. D'après ce que l'on voit dans les albums de Murena, elle fréquente des gens intellectuels très importants et elle reçoit des pointures de la société judaïsante, par exemple. Ça donne un autre éclairage, en effet, sur le règne de Néron, parce que forcément, elle a eu une influence sur lui.
Oui, oui, elle les a aidés, hein, tout à fait. Elle a aidé les Juifs à l'époque de Rome. On ne sait pas pourquoi, je crois. Je ne sais pas s'il y a une raison à ça en particulier. Mais Jean, c'est un détail qu'il a repris, qu'il a montré dans la BD.
Oui, justement, il n'y a pas grand-chose d'écrit sur Poppée, hein, et peut-être qu'il y aura bientôt un livre sur elle. Et Poppée, effectivement, c'est un personnage fascinant dont on sait qu'elle a une famille à Pompéi, par exemple. Hein, elle fait partie de ces gens qui ont un background, comme on dit, très important. Et donc,
Oui, d'ailleurs, à Pompéi, il y a toujours cette villa qui lui aurait appartenu. Je ne suis pas
oui,
sûr
la Villa d'Oplontis, hein,
à
oui.
100%.
Oui.
Ouais. J'étais la visiter d'ailleurs. J'ai pris pas mal de photos
Elle est
et le fait
magnifique,
d'aller
hein.
prendre des photos comme ça sur. Ouais, tout à fait. Il y a encore des belles peintures sur les murales. Ça vaut le coup d'aller la voir quand on va à Pompéi.
Ah
C'est juste
oui.
à côté.
Oui, il faut surtout. En effet, il y a peu de gens qui y vont, et pourtant c'est un lieu formidable avec des œuvres d'art partout, des perspectives, et aujourd'hui des jardins qu'on essaie de reconstituer avec ce que l'on a gardé des anciennes plantations. Eh bien, c'est déjà l'heure de se quitter, Jérémy. C'était une conversation passionnante et évidemment qu'on attend. Alors moi, j'ai dévoré cet album que j'ai lu plusieurs fois, mais j'attends déjà la suite, hein, tellement on est gourmande de Murena. Eh bien, merci beaucoup et à très bientôt, j'espère.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.